Deezer Originals.
Football. Recall. Football Recall.
Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres. Tous les jeudis, on vous spoil votre week-end de foot. Pendant 30 minutes, on va vous raconter ce qui va se passer du vendredi au dimanche soir.
Avec Football Recall, tu vas enfin réaliser ton rêve, te glisser dans la peau d'une hôtesse de l'air de long courrier, complètement jetlagué. Ouais, je vous vois un peu tous dubitatifs, mais je sais que vous rêvez tous d'être une hôtesse de l'air. Tu vas passer des Pays-Bas à l'Italie en un claquement de doigts, et d'une seconde à l'autre, tu vas sauter du samedi soir au dimanche midi. Pas de panique, on sera là pour te guider.
Je m'appelle Thomas.
Et je suis Mathieu, et comme toutes les semaines...
On est sur M6. Non, tu vas pas celle-là non plus.
Dans le Hit Machine.
Ouais, voilà, ah, t'as là. Enfin quelqu'un qui a la ref.
Et donc je disais, comme toutes les semaines, on vous raconte les grandes histoires de ce week-end de foot. Voici le sommaire du deuxième numéro.
Football Recall, l'émission qui prend les matchs les uns avant les autres.
Cette semaine dans Football Recall, notre reportage nous emmène à la grande fête des DRH. Les experts en ressources humaines ont quelques conseils pour intégrer une star dans leur équipe.
De toute façon, si sur ces aspects-là ça ne matche pas humainement, cette star on l'intégrera pas déjà.
Les joueurs du Borussia Dortmund ont ramené de leurs vacances en Espagne un joli souvenir, une bonne vieille tourista. La qualité allemande, c'est plus que c'était.
Multifunktionslenkrad aus Leder, deutsche Qualität.
En Arabie Saoudite, les femmes ont maintenant le droit de se rendre dans les stades de foot. Enfin, dans certains stades et pour certains matchs.
Alors, le terme de liberté est un peu déroutant, certes, dans le domaine d'une science comme les statistiques.
Et le foot, ce n'est pas que le terrain, c'est aussi les tribunes. Football Recall va vous révéler quelles banderoles les ultras de toute l'Europe déploieront ce week-end.
Génial, G-E-N-I-A-L.
Et chaque semaine, on sera accompagné par deux journalistes de l'équipe SoFoot et Society qui viendront se relayer. Aujourd'hui, on accueille Sylvain Gouverneur. Salut Sylvain.
Bonjour Thomas.
tu as donc 8 ans apparemment.
J'ai une petite voix.
Quelqu'un de fragile. Sylvain, tu es fragile, mais tu es aussi journaliste pour SoFoot et pour Society, c'est ça?
Tout à fait.
Et comme on l'a fait la semaine dernière avec Noémie et Alexandre, on va te demander non pas ton ASV, mais ton ASC, Age Sex Club.
Alors, j'ai la tristesse de dire 42 ans.
Oui, tu les fais pas.
Je suis un homme, malgré ma voix, et j'ai aussi la tristesse de dire AS Nancy Lorraine.
Pour ton papa, il en faut. Hein.
Oui, c'est sûr. Très très dur en ce moment.
C'est très dur. C'est très rare.
On creuse.
On a aussi Boris avec nous. Boris Théier, comment ça va?
Ça va, Thomas, ça va.
Tu me regardes, j'ai l'impression de te réveiller.
C'était très très beau, c'est pour ça.
Merci Boris, tu vas revenir bientôt.
Je vais faire Mathieu, moi, pour...
Voilà, comme ça tout le monde est content.
Boris, ASC.
ASC, bien sûr, oui. Je m'appelle Boris, j'ai 27 ans, je suis un homme, donc, parce que Boris, prénom d'homme, oui. Et je supporte le Paris Saint-Germain.
C'est bien, encore.
Ah, c'est
on
toi.
On a une surreprésentation du PSG.
Oui, attention au Lynx, attention.
Non,
oui.
non, on ne parle pas de ça.
Alors que ce podcast est enregistré à Vierzon.
Oui, c'est fou,
c'est ça qui est étrange.
C'est vraiment dingue. Bon, tout le monde est prêt?
Bien sûr.
Allez, mettez vos ceintures, on bascule dans le futur.
Et on commence tout de suite notre voyage dans ce week-end par le vendredi 19 janvier, à l'heure du déj. On se fait un petit déj?
Allez.
Vendredi, midi pile.
Il est donc midi ce vendredi 19 janvier et les joueurs du Borussia se ruent à table. Ce soir, ils vont affronter le Hertha Berlin. Il faut donc prendre des forces, enfin plutôt reprendre des forces. Oui, parce qu'il y a quelques jours, l'équipe allemande était à Marbella pour la trêve, avec un programme très classique, hein, entraînement, match amicaux et sieste devant un bon vieil épisode du Renard. Normal, jusqu'à là. Pas le temps de niaiser et pas le temps de goûter aux spécialités culinaires locales, forcément. Donc du coup, que font certains joueurs deux jours avant de quitter l'Espagne? Ils partent se faire un petit kebab.
Ah bah bien sûr.
C'est normal ça.
Le plat du coin.
Mais oui. Voilà, le plat local. Pas n'importe lequel, hein, un kebab au poulet. Sauf que vous me voyez venir, kebab, Costa del Sol, calor,
ouais,
pollo.
Ouais, ça fait pas bon ménage.
Ouais, gastro, ouais. Eh oui, gastro, bien sûr. Pas moins de 9 joueurs ont été malades.
Ah oui.
9, c'est beaucoup. Hein, dont le gardien titulaire Burki, la pépite américaine Pulisic et même l'espagnol Marc Bartra, qui joue pourtant à domicile. Le mec, il sait très bien qu'ils ne savent pas faire des kebabs.
Surtout, ce qui est très étonnant, c'est que ces joueurs n'ont jamais regardé un enquête d'action exclusif
sur les kebabs. Comment sont fabriqués les kebabs.
Voilà, et comment bien choisir son kebab.
Puis ils ont tous pris un kebab. Il y en a pas un qui s'est dit je prends un petit Adana. Non, tous la même chose.
Mais surtout, les mecs viennent à 9 pour un kebab.
Ils débarquent à 9 dans un kebab. Bonjour. Il y a 3 places dans le kebab.
Une table de 9, s'il vous plaît. Vous avez Bein? Ouais, mettez-nous Bein. Et en fait, entre le Borussia et le kebab, c'est une longue histoire d'amour. Déjà en 2014, le joueur Kevin Grosse-Kreuz, à Dortmund, s'était embrouillé dans la rue avec des supporters de Cologne à la suite d'un match. Évidemment, le ton est monté très vite. C'est parti en coup de pied bagarre. bagarre et le joueur n'a rien trouvé d'autre que de balancer son kebab sur un supporter. Non. Ouais, son kebab sur un type dans la rue. Le meilleur, c'est que le supporter en question a porté plainte pour, je cite, coups et blessures présumées.
Ah oui, il y a pas un chef d'accusation spécifique au kebab.
Pour l'instant, non. Mais je pense que la déposition a dû être pas mal à la police, quoi. Oui, je me suis fait agresser, bien sûr. Bah, je peux vous décrire l'arme. Salade tomate oignon, sauce samouraï, chef.
On avance dans le week-end ?
Allez.
Elle est vendredi, 20h02.
Vendredi, 20h02.
Vendredi 19 janvier, après deux petites minutes de jeu sur la pelouse du club néerlandais d'Utrecht, les joueurs de l'AZ Alkmaar réussiront trois passes à une touche de balle pour sortir de leur moitié de terrain.
C'est précis, hein, comme. C'est comme.
On est une émission qui anticipe.
Bien sûr, c'est précis.
Ça vous semble un peu anodin, ces trois petites passes pour sortir du terrain, et pourtant, il y a un téléspectateur qui regardera ce match devant sa télé et qui versera une larme. Mmh. Ce téléspectateur, c'est Louis Van Gaal, tellement ému de voir son équipe de l'AZ jouer au foot qu'il a craqué, seul, dans sa maison de retraite. Car oui, de sa carrière, Louis Van Gaal, ou Louis Van Gaal.
Louis Van Gaal,
il faut dire Louis Van Gaal.
Oui, tout se prononce n'importe
comment. J'ai beaucoup de « r ». C'est les Pays-Bas, je vais me dire Van Gaal, ça me facilitera les choses.
Okay.
Louis Van Gaal retient d'abord ses années d'entraîneur de l'AZ Alkmaar de 2005 à 2009. Mm-hmm. Parce que Van Gaal, il a entraîné l'Ajax, le Barça, le Bayern, Manchester United, la sélection néerlandaise.
Oui.
Mais dans une interview au quotidien de Volkskrant, il dit de l'AZ, c'était un âge d'or.
Ah ouais,
et il se lance dans une déclaration d'amour à ses joueurs de l'époque. J'ai découvert que la valeur intrinsèque des joueurs comptait peu, que la formation que vous leur apportez est plus importante que tout.
C'est super.
C'est beau.
La haute sœur.
Certainement. À mon avis, faut
bouger le truc. Il l'a piqué.
Oui.
Van Gaal a révélé des joueurs comme Patrick Kluivert, les frères de Boer, Edgar Davids. Il a coaché Rivaldo, Sonny Anderson, André Di Maria, Wayne Rooney. Mais bien sûr, son kiff, c'est l'AZ Alkmaar.
Oui, ou alors son kiff, c'est de détruire le Barça, peut-être, je sais pas.
Peut-être.
Faisant n'importe quoi.
Mais en gros, voilà, son truc, c'est l'AZ Alkmaar. Et à l'époque, la star de l'AZ Alkmaar, c'était Graziano Pelé, qui joue aujourd'hui en Chine. Donc le mec a entraîné les plus grands, mais ce qui l'émeut encore aujourd'hui, c'est l'AZ Alkmaar.
Les plus grands, c'est trop mainstream. Il a besoin de trouver son petit truc.
Voilà,
c'est juste un hipster.
C'est un hipster, ou alors c'est un mec qui a un peu la dent dure envers ses anciens clubs, parce qu'à chaque fois qu'il est passé par des gros clubs, ça s'est très mal fini. Mmh. Et pourquoi ? Surtout parce qu'il avait une très grosse confiance en lui. Je vous donne juste deux petites phrases de Louis Van Gaal.
Bien sûr.
En 91, il devient coach de l'Ajax. Il dit à ses dirigeants, bravo, vous avez fait signer le meilleur coach du monde. Tranquille. C'est-à-dire que toi, t'es recruté.
Modeste.
T'es recruté pour être comptable, t'arrives dans ta boîte, tu fais, OK, les mecs, vous avez le meilleur comptable du monde avec vous.
Filez-moi les dossiers de 2004 à 2007.
Et alors, il y en a une autre que moi, j'aime beaucoup. En 2000, il est nommé sélectionneur des Pays-Bas et il balance, j'ai signé un contrat jusqu'en 2006, donc nous avons le temps de gagner deux Coupes du Monde.
Voilà. Mais lui aussi, il fait dans la divination.
Puisqu'en 2002, les Pays-Bas, ils sont pas qualifiés.
Voilà, bien joué.
Et en 2006, ils sont éliminés en huitième.
Il n'a pas précisé, c'était peut-être sur FIFA. Ou Il n'a pas précisé, tu sais pas.
Voilà, en fait, dans l'interview de Volkskrant, mieux vaut retenir cette phrase, une phrase de Van Gaal, la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est beau comme du Ségara, comme du Hélène Ségara, bien sûr. Allez, on poursuit.
Samedi, 13h56.
Sylvain.
Eh oui, il est 13h56.
C'est ça. Alors, en plus de ton master commerce international et fluvial, tu possèdes aussi une formation en art divinatoire, option supporter ultra.
Et ça peut servir dans la vie.
Mais surtout, ça peut nous servir. Donc, tu es en mesure de nous dire ce que les ultras vont écrire sur leur banderole ce week-end.
On dit medium foot, hein, sinon ça fait un peu pompeux.
Oui, c'est ça, exactement.
Juste medium foot, ça arrive à plein.
T'es pas à l'abri qu'une série soit consacrée à le mentaliste.
Medium foot.
Sur TF1, sûrement.
Oui, alors effectivement, il est 13h56, on est en Espagne, et 13h56, c'est l'heure de la sieste, hein, puisqu'ils dorment entre 10h et 18h environ. Et
surtout si tu manges un gros kebab avant.
Voilà. Et on est avec les supporters du Betis Séville, qui va recevoir le FC Barcelone ce dimanche.
Ouais.
Alors, sans Ousmane Dembélé, qui s'est reblessé direct alors qu'il sortait de 4 mois d'arrêt.
Fragile
Ousmane,
aussi.
C'est pas facile de garder la forme au bouffant des tapas. et donc, les Sévillans ont décidé de préparer un grand tifo. Un petit peu pour célébrer ça, avec la tête d'Abu Dhabi sous laquelle on pourra tout simplement lire Ousmane Dembélé 147 millions lol. Voilà. Et puis dans la foulée, on va direction 3.
On fonce
Hyperloop, Elon Musk, paf, on est à 3.
Et d'ailleurs, à mon avis, il vaut mieux le faire en bagnole, ce trajet.
Ah ouais, ouais,
en
ouais,
avion,
ouais.
En train.
Non, il n'y a pas d'aéroport à 3. À Nantes non plus, d'ailleurs, visiblement.
Non, c'est fini.
On se retrouve à 3. Alors, 3 reçoit le LOSC samedi soir. Hein,
c'est une autre ambiance.
Ouais, c'est une autre ambiance. Bon, alors le LOSC, en ce moment, c'est un club qu'on pourrait qualifier de un peu dans la panade, voire en perdition ou à la ramasse peut-être, puisqu'ils doivent
que
trouver.
Que des expressions des années 80.
Voilà. Je vous le rappelle, je suis un homme des années 80. Ils doivent trouver, je vous le rappelle, 25 millions d'euros avant le 31 janvier.
Ah.
Sinon, la DNCG, qui est pas toujours super sympa, va être très très contente. Mm-hmm. Et la bonne nouvelle, c'est que les supporters troyens là sont en train de préparer une banderole de soutien, puisqu'ils décident de prôner l'union sacrée entre tous les Lillois avec la banderole suivante: supporters, salariés, dirigeants lillois, tous ensemble, Apple Emploi.
Voilà. C'est méchant. Non, mais c'est les supporters, hein, c'est ça. Hein, c'est ce que t'as vu dans ta boule de cristal.
C'est sympa, Apple Emploi.
Mais
dis-moi. J'y suis.
Mais attends, c'est tout ce que t'as vu là comme
C'est tout ce que j'ai vu pour l'instant, mais ça vient par flash. C'est pas, on demande pas comme ça.
Ah non, c'est une star en plus. Ouais, ouais. Donc tu nous redis quand t'as.
Je vous redis quand j'ai un flash.
Tu nous fais signe.
Je vous fais signe.
Ok, bon, on enchaîne.
Football Recall. Samedi 16h46.
On part pour l'Arabie Saoudite. Samedi 20 janvier à 16h46, Noura, une jeune Saoudienne, sera très déçue quand elle devra rebrousser chemin devant le stade du prince Saoud bin Jalawi à Khobar. Le match de première ligue saoudienne...
Je crois qu'on dit Khobar.
Khobar.
Pas si t'as fait néerlandais. Enfin,
j'ai hésité. Ouais. Mais souvent, avec l'arabe, on dit oui, ça s'écrit différemment, ça dépend des pays
c'est
dans
comme
lesquels le on prononce. On peut le prononcer de plusieurs façons.
Voilà, il y a plein d'arabes, plein de types d'arabes.
Différents.
Ça ne se lit pas pareil.
Je sors de cette discussion parce que la Likra m'appelle.
On s'entend.
Oui.
Donc, Noura, la pauvre Noura, elle arrive devant le stade du prince Saoud bin Jalawi à Khobar. Et bah elle se rend compte qu'elle ne pourra pas assister au match de première ligue saoudienne entre Al-Qadassiya et Al-Hilal. C'est bon là la prononciation ?
Alors on dit Al-Qadassiya.
Ouais, d'accord. Et pendant ce match, il n'y aura aucune femme en tribune. Et pourtant, Noura se faisait une joie de se rendre pour la première fois dans un stade de foot. La semaine dernière, elle s'était réjouie de découvrir que son pays avait enfin autorisé les femmes à assister à des matchs.
C'est vrai.
Mais elle n'avait pas bien lu les détails. Ces petites lignes qui défilent à 200 à l'heure à la fin des pubs pour les médicaments, là, pendant des chiffres
oui,
et des lettres.
Des astérix. Ouais.
Boris, toi, tu les as lues, ces petites lignes, et tu peux nous expliquer cette décision historique d'autoriser les Saoudiennes à rentrer dans les stades.
Eh bien, effectivement. En fait, c'était le vendredi dernier, donc le 12 janvier. C'était la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite que des femmes assistaient à un match de foot. Tu viens de le dire, Mathieu, donc je le répète quand même, que vous n'avez pas compris. C'était au stade de Jeddah, dans la ville de Jeddah. Donc, c'est une ville qui est située à l'ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer.
On dit Jeddah.
Merci Thomas pour tes merveilleuses corrections. Tu as raison. Dans la ville de Jeddah. Voilà, donc ces supportrices ont pour la première fois pu encourager leurs équipes depuis les gradins et pas devant leur télé comme elles le faisaient habituellement, parce qu'elles le faisaient, effectivement, elles supportaient leur équipe de foot. Et ça semble être de mieux en mieux hein, pour la gente féminine en Arabie Saoudite. En septembre dernier, le roi Salman y avait autorisé les femmes à conduire à partir de juin 2018.
Mabrouk.
Incroyable. Mais c'est pas tout rose non plus. On rappelle quand même qu'en Arabie Saoudite, les femmes, elles sont toujours sous tutelle. C'est-à-dire qu'elles doivent obtenir l'aval d'un référent masculin, alors leur père, leur époux ou leur frère, pour par exemple signer un contrat de travail, voyager, faire des études ou sortir de prison.
Il n'y a pas de carte.
Abolir cette tutelle, c'est le prochain objectif des féministes saoudiennes, déjà en fait elles ont bossé parce que la stricte séparation des sexes dans l'espace public c'est largement assoupli et c'est de ça dont on parle. C'est ce qui justifie notamment la présence des femmes dans les stades de Jeddah pour Thomas, vendredi dernier. Donc plusieurs petits bémols là encore, tu l'as dit Mathieu. Premièrement, les femmes, ou plus précisément même les familles qui viennent au stade, doivent prendre place dans une section du stade séparée
réservée
de celle des hommes qui viennent seuls. Voilà, et forcément. Et deuxièmement, donc seuls 3 stades sont concernés par cette nouvelle
liberté.
Ah,
c'est pas liberté. Tous les stades, d'accord.
Non, il y a seuls 3 stades, comme l'avait précisé d'ailleurs l'autorité générale du sport le 29 octobre, puisqu'elle précisait, donc début de la préparation des 3 stades à Riyad, Jeddah et Dammam, donc pour accueillir des familles à partir de 2018. On note qu'il mentionne bien des familles et
oui,
pas, des femmes.
Pas des femmes.
Donc même dans la communication officielle, il y a encore du travail à faire.
Oui, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elles peuvent vraiment rentrer
dans
certains stades.
Et ça reste malgré tout, même si c'est moins strict, ça reste séparé des hommes qui viennent seuls.
Moi, ce que je propose pour toutes les femmes saoudiennes qui nous écoutent, on va leur donner quelques conseils pratiques pour bien se comporter dans un stade.
Parce qu'on est très écoutés en Arabie Saoudite.
Nous qui sommes habitués des stades, on va leur expliquer.
D'où les corrections que tu apportes régulièrement.
Thomas, est-ce que toi, tu as un conseil pratique à livrer aux saoudiennes qui vont certainement, dans les semaines qui viennent, assister à un match de foot?
Oui, j'ai leur conseil de prendre un peu de matos. C'est-à-dire des feuilles roulées, parce que c'est très important dans les stades, notamment en Europe.
Oui, d'accord.
Il faut rester discret, quand même, c'est l'Arabie Saoudite.
D'accord. Sylvain, un petit conseil.
Comme visiblement, elles n'ont pas totalement encore gagné leur combat, je pense qu'il va falloir qu'elles réussissent à communiquer. Et en ce moment, ce qui marche très bien, c'est de signer des tribunes. Donc, je leur conseille de prendre un stylo, d'aller en tribune et juste de signer.
Très bon conseil.
Mathieu, peut-être.
Oui, moi, j'ai un conseil très pratique. Alors, puisqu'on est dans un stade, on fait des holà, c'est le passage obligé. Donc, pour faire une bonne holà, on repère un voisin.
C'est un tuto.
Okay. On repère un voisin sur sa droite ou sur sa gauche, car attention, on regarde bien dans quel sens.
Un voisin ou une voisine.
Il va y avoir des contrôles.
Puisque, comme on vient de le dire, les femmes ont désormais le droit. Donc, bref.
Mais à mon avis, il vaut mieux viser le voisin qui, lui, est habitué à faire des holà, puisqu'il est fan de foot, il adore la holà. Donc, il prend un voisin à droite ou à gauche, en fonction du sens de rotation de la holà. Pas trop proche, parce que sinon, il n'aura pas le temps de se préparer. Mm-hmm. Pas trop loin non plus, sinon, il n'aura pas le bon timing. Et il prend ce repère visuel. Ouais. Et dès que ce repère visuel commence à se rasseoir, là, il faut se lever pour lever les bras.
Ah,
voilà.
C'est ça. Okay. Alors, j'ai quand même une petite question. C'est technique, j'aimerais qu'on m'explique. Est-ce que les holà tournent de droite à gauche dans l'hémisphère nord et de gauche à droite dans l'hémisphère sud? J'aimerais que quelqu'un me le dise.
Ça mérite une enquête. Écoute,
appelons notre bureau en Australie.
Tu l'expliques dans
le prochain reportage, peut-être. Voilà.
Ou dans ton podcast, scientifique. Tiens-nous au courant. Allez, on fonce.
Dimanche, 15h.
Sylvain va nous raconter l'histoire, l'histoire d'un joueur.
Eh oui.
Ah oui, tiens.
Tout à fait. Sylvain, 8 ans.
Tu avais compris 42, moi, mais...
Voilà. Okay, et donc, nous sommes dimanche.
Oui.
Nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur, en Italie particulièrement, puisqu'on sait qu'ils sont assez pieux. Et Antonio Cassano regarde Hellas Vérone Crotone à la télé. Alors, Hellas Vérone, c'est son dernier club. Hein, et donc, Antonio a un petit pincement au cœur. Et pourquoi un petit pincement au cœur? Eh bien, parce qu'Antonio, il est à la retraite depuis cet été. Et on sait que c'est toujours un peu dur de s'adapter à une retraite. Hein. On a travaillé toute sa vie, c'est une petite mort. Et particulièrement pour Antonio, parce qu'il était vraiment très, très foot. Il adorait le foot, insultait les entraîneurs aussi, mais particulièrement le foot. Et je vous propose un petit flashback au début des années 2000 pour bien comprendre ce que c'était Antonio Cassano.
Ouais.
Donc Antonio Cassano, il commence à Bari en 99-2000. C'est l'un des grands espoirs du foot italien. Mmh. Il réussit très vite, très fort. Paf, il signe à la Roma. Tout se passe super bien avec Totti. Mais bon, à un moment, il se brouille quand même avec son entraîneur parce que c'est son truc.
Il s'est brouillé aussi avec son dermato, je crois.
Voilà, c'est un type qui se brouille en général. Et du coup... il file à Madrid, mais bon, à Madrid, il passe plus de temps à participer à des orgies et à bouffer qu'à jouer.
Des kebabs.
Voilà, donc il y gagne un surnom, Petit Gros, et Rebelote, il se brouille cette fois avec Capello, son entraîneur du moment, c'est sa spécialité. Hein. Il file à la Samp, il se brouille cette fois avec le président, faut varier un peu, hein, sinon on se marre pas. Il le traite de vieux de merde, puis il s'en va à Milan... un truc qu'il a jamais fait, il dit « Oh, je vais faire un AVC !» Paf, il fait un AVC en 2011.
Comment il a osé?
Ça l'arrête pas, hein. il se fait opérer du cœur, il rechausse les crampons derrière, il se dit « Tiens, je vais aller voir chez le voisin, il part à l'Inter, ça se passe plutôt bien. »
Il joue un peu moins bien, mais bon.
Il joue un peu moins bien, mais ça se passe bien à l'Inter.
Il tremble.
Ensuite, il va à Parme. Bon, à Parme, on oublie de le payer parce que Parme, il y a des scandales, c'est pas facile. Donc, il change, il repart à la Samp, il s'en va finir sa carrière au Hellas Vérone, son dernier club, qui signe le 10 juillet 2017. Alors, vous allez me dire, s'il a signé le 10 juillet, bah, il n'est pas en retraite.
Il n'est pas en retraite.
J'ai eu peur que vous ne me le disiez pas.
Non, parce que comme tu nous regardais,
tu nous faisais des grands signes.
Eh bien, si, figurez-vous qu'il est en retraite. Parce que le 18, Antonio, il change d'avis.
Donc, le 10, il signe.
Le 10, il signe.
8 jours plus tard,
il change d'avis, il dit non, ça peut le faire à Vérone.
Le huitième jour.
Bon, alors après, le 18, parce qu'on est toujours le 18, il rechange d'avis, il dit
dans la même journée.
Finalement, excusez-moi les gars, je me suis gouré.
C'était une blague, on peut pas déconner.
Je joue.
Peut-être entre-temps, il a calculé ses points en retraite, il s'est dit.
Peut-être, il manque 5 mois, c'est pas facile, faut que je les rachète.
Donc il a dit, je joue.
Il a dit je joue. Okay. Ah bon. Alors cette fois, quand même, on peut pas dire grand chose. Il a quand même tenu 6 jours avant de changer d'avis. C'est quand même donc le 24 juillet, il annonce à nouveau sa retraite. Fin du game. Eh ben pas du tout. Un peu comme un Aznavour quand on est à sa 38e tournée d'adieu ou Samy Nasseri quand il dit qu'il ira plus en prison. C'est pas fini vraiment.
Ou qu'il arrêtera de boire.
Voilà. Antonio songe à remettre le couvert et il a déclaré « Je m'entraîne toujours. Je ne me sens pas comme un ex-joueur. Je suis totalement prêt à rejouer si un projet sérieux se présente. Oui. » Bon, alors à noter qu'il a 35 ans, donc je pense qu'on en a encore pour 5 ou 6 ans de retraite puis retraite. Voilà, on va suivre ça.
Ça sentirait pas un peu la Chine pour Cassano?
C'est pas.
Et encore, je pense que la Chine, on est un peu sympa.
Le Mexique,
l'Inde.
L'Inde.
Ouais, l'India Super League.
Ah, vivement le clash avec les Indiens.
Attention, Robert Pires.
Sur la boue.
Attends, Antonio Cassano arrive.
Dimanche, 19h27.
C'est encore Mathieu ?
Non. Bah, non, moi j'ai l'impression parce
gars,
que je vois.
Les gars, je vous arrête tout de suite.
Je vois Sylvain commencer à trembler, avoir les
vous
yeux
vous
révulsés.
Tout de suite.
Il a une vision.
Un flash vient de me tomber.
C'est pas une crise d'hypoglycémie ?
Non, c'est un flash.
Ça, c'est un flash.
Il est 19h27 et je suis actuellement en plein Monaco-Metz.
Mais dis-nous ce qui se passe.
Dans le chaudron monégasque.
Okay.
Et je vois en face de moi les ultra-messins qui sont en train de déployer une banderole où il est juste écrit « Ah, c'était à huis clos ». Je vous rappelle si j'ai un autre flash qui arrive.
D'accord, sans problème.
C'est fou, c'est flash, quoi.
Bon, bah, en attendant, on poursuit.
Dimanche, 21h.
Dimanche à 21h, les joueurs du PSG entameront leur match face à l'Olympique Lyonnais, les traits tirés et le visage marqué. Mmh. Ils stressent pas, là, ils stresseront pas pour le match. Hein. Ils vont le gagner 2-0, doublé de Cavani, sans problème.
Okay.
Donc en fait, si les joueurs du PSG paraîtront moroses, c'est qu'ils sortiront de leur vestiaire après y avoir passé une heure dans une ambiance pesante. Eh oui, ça vous a pas échappé. Encore une fois, dans le vestiaire du PSG, c'est compliqué. Mmh. Thiago Silva a balancé le désir de départ de Javier Pastore.
La poucave. Mmh.
Qui lui a répondu sur Instagram qu'il n'en avait jamais parlé avec son copain Thiago.
C'est ridicule. Mmh. Bref, pardon. Mmh.
Voilà. C'était l'édito de Boris.
Je crois qu'on entend Boris penser. Ah, j'ai envie de pisser.
Et puis forcément, il y a aussi le cas Neymar qui est toujours pas ami avec Cavani.
Ouais.
Enfin, autant de raisons de se pencher sur la question du team building, ce thème si cher au monde de l'entreprise. Boris, tu as rencontré des experts en ressources humaines et tu n'as pas fait les choses à moitié car tu es parti en reportage dans la Silicon Valley.
Wow.
Non, je déconne. T'es parti au salon ressources et formations à Paris.
Porte de Champéret.
Espace Champéret.
Après.
Est-ce que c'était bien ?
C'était super, vraiment.
Merci à Boris.
À bientôt,
à la prochaine.
On écoute quand même ce que...
Allons-y, oui, si Thomas va bien.
Oui.
Football Recall.
C'est toujours délicat. Je pense que c'est une question de transparence et notamment de travail extrêmement lucide et pragmatique sur les attentes. La star qui arrive avec des attentes, peut-être des attentes de progresser, peut-être des attentes juste de plus briller. Mais il y a les attentes aussi chez les collègues, chez le groupe que la star va intégrer. Et il faut être extrêmement clair et pragmatique là-dessus, fixer les barrières, fixer les limites. Je pense que les collègues, ils ont le droit de lever la voix et de poser des questions dès lors qu'il y ait une question ou un doute sur la cohérence du projet d'ensemble.
On va voir ce que ça donne. On peut faire un peu plus fort que ça, non ? Voilà, j'envoie la balle.
Comment on fait quand on accueille une star au sein de son groupe, au sein de ses salariés ? Comment on fait pour la gérer parmi les salariés qui étaient là depuis peut-être 5-10 ans ? Comment vous le géreriez, vous, ça ? Cette star qui arrive dans votre groupe ?
On doit, dans un monde d'individualité, d'individualisme, surtout si vous commencez à recruter des gens qui ont un peu d'ego, mais qui sont en même temps compatibles avec la culture de l'entreprise, je crois qu'il faut leur laisser de la lumière. Simplement. Et il ne faut plus avoir un management comme avant, où dès que quelqu'un dit quelque chose, je rattrape l'idée, j'en fais mienne et je la... Vous voyez, finalement, son rôle, c'est de mettre en valeur la star, mais il faut qu'il y ait une forme d'évidence, il faut que la personne s'impose. Il peut y avoir une petite phase de friction ou d'adaptation, plutôt. Enfin, il faut se donner pour objectif commun que, finalement, tout ça fasse une équipe, quoi. On est toujours le même sujet.
Je reviendrai avec vous dans quelques minutes pour vous annoncer le programme de cette journée. Merci encore de votre présence nombreuse. Et on se retrouve dans quelques minutes pour vous présenter en détail le programme de cette première édition. Nous l'avons entendu. Ressources et formations ici à l'espace Champéret.
Je dirais qu'il n'y a pas de recette, hein. C'est comme quand on va avoir un gamin, on dit « Ah, moi, il sera comme ça, il sera comme ça ». Puis quand il arrive, en fait, on fait au mieux. Mais comme on a des valeurs, en gros, on arrive généralement à respecter la trajectoire des valeurs qui nous incarnent.
Justement, quand on accueille ce genre de phénomène dans son entreprise, on se dit qu'il va nous apporter quelque chose. Comment on fait ? Est-ce qu'on le met dans les meilleures conditions pour qu'il puisse justement nous apporter quelque chose ? Donc on le soutient.
Ah bah déjà, il respectera les règles du reste de l'équipe, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une star qu'il n'est pas soumis aux mêmes règles. Donc ça fait partie des clés de départ. Il y a des fondamentaux basiques sur le respect des horaires, sur le fait de dire bonjour, sur son comportement, qui vont être à respecter. Mais de toute façon, si sur ces aspects-là, ça ne matche pas humainement, cette star, on ne l'intégrera pas parce que ça générerait trop de risques par rapport au projet et au collectif.
Merci beaucoup. Ainsi se termine le masterclass pour cette première édition du Salon en ressources et formation.
Football Recall.
Et quelle masterclass.
Ouais, très belle masterclass. On a entendu beaucoup de patrons. Ils font quoi concrètement?
Alors,
dans la vie?
On a entendu d'abord un consultant en accompagnement à la transformation culturelle.
Waouh.
Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et ensuite, c'était deux PDG, enfin un PDG et un directeur général d'entreprise.
Oh non, pas cette blague-là.
Mais non, pas du tout.
Si elle vient de
Ce qui nous fait rire, c'est qu'on vient de voir ta coudière. Parce que tu as porté des meubles Ikea et que tu t'es déchiré. Mais c'est ça qui nous fait rire.
Parce que Thomas a enlevé son pull.
Donc bref, désolé Boris, on t'a coupé les deux PDG. Non.
Ça te dérange que je sois torse nu, Boris?
Deux PDG. Ça, non, pas plus que ça, je t'avoue que c'est plutôt agréable. Un PDG, d'un groupe d'entreprise, mais d'assurance en fait, et un directeur général d'un organisme de certification.
D'accord, donc des gens.
Des gros déconneurs.
Des gens qui ont des cartes de visite imprimées sur A3.
Ouais, c'est ça.
Et qui, en fait, parlent business, mais qui finalement parlent aussi foot. Ils ont l'air de. Aussi à l'aise sur les
parce
deux
que
sujets.
Parce que je leur parlais de gestion d'effectifs, gestion d'ego, gestion de stars et blabla. Et là-dessus.
Ils ont kiffé.
Là-dessus, effectivement. Mais en tout cas, ils s'y connaissent, quoi. En tant que dirigeants, ils savent de quoi ils parlent quand il s'agit de gérer un groupe, gérer des potentiels stars, et voilà. Donc ça, ils étaient vachement à l'aise là-dessus.
Et puisqu'on parle économie, on ne peut éviter une citation de François Hollande.
Mm-hmm. Bien sûr.
Qui disait, pendant le débat sur la taxe à 75%,
il disait,
un club est une entreprise comme une autre.
Oui.
Ce qui pose la même question, est-ce qu'un club fonctionne comme n'importe quelle entreprise, comme une boîte d'assurance
Bien sûr. Là, regarde récemment l'exemple de Machache qui s'est fait virer du TFC. Il s'est fait virer comme n'importe quel salarié. Voilà, quoi.
Ouais. Alors, d'un sens, est-ce que tu vois un club où les joueurs ont une page LinkedIn? Donc, non, c'est pas la même chose, je suis désolé.
Non, mais c'est vrai. Après, t'as des procédures au prud'homme, des contrats à respecter, effectivement.
Cazoni, il n'y a pas longtemps, a gagné au prud'homme contre Valenciennes. Il a gagné plus de 300 000 euros pour rupture abusive de contrat, comme dans une boîte normale.
Non, dans une boîte, c'est 30 000 euros, voire 3 000.
Oui,
désolé.
Et encore moins avec le plafonnement des indemnités prud'homales.
Hein. Voilà, exactement. Non.
Bienvenue sur BFM Business. Il est 19h47. Ouais, non, pardon. Non,
si on peut être sérieux deux secondes.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a tout ce système, effectivement, de prud'homme, de contrat à respecter, etc., qui peut faire penser au monde de l'entreprise. En même temps, un club de foot, c'est pas du tout la même logique qu'une entreprise. Un club de foot, tout l'argent qui rentre dans les caisses, il va essayer de le dépenser pour acheter les meilleurs joueurs. Et en fait, on n'est pas du tout dans une logique de recherche de croissance ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment dans... on brûle les billets. On balance les billets dans la chaudière.
Même si je suis assez d'accord avec toi, même s'il y a quelques clubs et forcément les plus gros qui font office de contre-exemple dans le sens où ils sont intégrés en bourse et là dans une optique pour le coup d'enrichissement.
Ils ont une obligation d'être profitables en tout cas.
Ouais.
Oui. Avec la DNCG, ils ont une obligation d'être profitables comme les autres entreprises.
D'avoir des comptes équilibrés. Ouais. Mais si on prend d'ailleurs le cas du PSG, c'est le club en France qui dégage le plus de recettes.
Ouais.
C'est 550 millions d'euros à peu près. Ce qui est pas mal. C'est 60 fois moins.
Un 15 mètres carrés à Paris.
60 fois moins que Sanofi. Voilà. qui est pourtant pas l'entreprise la plus riche du CAC 40.
Donc,
par
rapport à Lactalis.
Mais il y en a des gens malades.
Et Lactalis, alors, on peut en parler?
Pardon. Alors, on va passer à un autre sujet très vite.
J'étais sur le reportage.
Non, mais c'est là où tu te rends compte quand même les ordres de grandeur sont complètement différents en termes de recettes. Des clubs de foot, ça reste des nains économiques à côté des
GAFA.
Oui, il y a plus de gens malades que de fans de foot. C'est tout.
Voilà, oui. C'est comme ça que j'explique les choses. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour des choses. On a réussi à être très sérieux pendant quelques minutes.
Ouais.
Donc on continue, on poursuit le voyage dans le week-end.
Allez, dimanche soir.
Dimanche, 22h01.
Ah, je vous arrête, car je crois que j'ai un flash.
Ah, c'est tu pas crois vrai. T'es pas sûr.
C'est fou. Ouais, je me concentre parce
ça
que je...
Pas.
Je
ça veut dire qu'on va rire alors.
Je vois, alors j'espère, mais je vois
qu'est-ce
que tu vois un stade.
Oui.
Le Stade des Lumières à Lyon.
Oui.
Lyon reçoit Paris, hein, c'est les deux plus grandes villes de France, à moins de considérer que Marseille est en France, mais ça c'est un autre débat. On sait que les deux clubs ont des histoires de banderoles par le passé.
Un passif.
Nasser avait fait interdire une banderole anti-Olas, mais alors cette fois personne n'a rien fait interdire. Et c'est une vraie farandole de banderoles qui commence.
Un festival.
Okay. Et les Bad Gone commencent avec un très très joli Parisiens, rentrez crevés dans vos bouchons et laissez-nous manger dans les nôtres. Une banderole à laquelle les Parisiens vont directement répondre avec
une
message culinaire assez simple. Ouais. Lyon, capitale de la quenelle. Avant d'enchaîner avec une plus petite banderole en forme d'injonction, reprenez Ben Arfa SVP, à laquelle les Lyonnais vont répondre en impoli, non merci ça ira, inscrit à la vite sur un drap qui traînait.
C'est un dialogue quoi.
C'est un dialogue, c'est nouveau.
Première,
c'est le premier dialogue banderole qui va avoir lieu au Mans.
Et on a l'exclu.
Et
ce qui est hyper sympa de la part de Sylvain, c'est que du coup, il prévient le Real de Canal qui va filmer le match, qui va devoir bien jongler entre les deux tribunes.
Voilà, on bosse pas gratos, un petit billet.
Bien sûr.
Ça va là, t'es pas trop crevé là ?
Non, ça va, je suis bien là. Je crois que j'en ai plus d'autres qui viennent, mais si jamais il y en a une qui vient, je vous arrête.
Bien sûr, tu nous dis.
Bon, alors du coup, Thomas, tu vas pouvoir nous parler de 22h01, dimanche 22h01.
Si Sylvain a plus de vision, voilà, s'y met.
Football Recall. Dimanche 22h01.
Donc dimanche 22h, donc le Barça se balade face au Betis, on l'a dit, tout le monde ne parle que de la dernière recrue catalane, Yerry Mina, le Colombien, qui est un peu spécial. Déjà quand il a découvert le stade de Barcelone pendant une visite, il s'est mis à crier tout d'un coup, tout seul, Visca Barça, alors qu'il n'y ait personne dans le stade. Ouais, ça c'est lui.
Mais ça va tout droit dans les 30 histoires paranormales, là, le truc de NT1 là.
Donc il y a personne dans le stade et tout d'un coup il se met à crier jusqu'à Barça.
OK.
Bon, pourquoi pas. C'est là où on se dit c'est un original. Et effectivement, c'est un original. Ensuite le Colombien le lendemain a été présenté au Nou Camp. Donc il prend la pose pour les photographes, bon jusque là classique, et puis tout d'un coup pareil, Yerry se met à vriller tout simplement. Mmh. Il se baisse, il enlève ses chaussettes, il enlève ses chaussures et il marche pieds nus sur la pelouse.
Comme Yannick Noah sur la scène du Zénith.
Le fameux, ou comme Moïse.
C'est un esthète, évidemment.
Évidemment. Donc là, tout le monde est surpris, à commencer par les dirigeants du Barça, qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fout, là, Mimi Sikou, là ? Ça va pas, non ?
Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs Mimi Sikou ?
Non, c'est une référence des années 90. Oui. Si t'as pas la ref, c'est pas grave. Et donc, il marche pieds nus, c'est hyper surprenant. Il s'en explique en conférence de presse, comme le rapporte quotidien catalan El Mundo Deportivo, qui cite le joueur. Il dit, il y a un verset dans la Bible qui précise... Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Je fais ce geste depuis toujours. Fin de citation. Ouais, on est vraiment sur un original. Hein. En fait, il se trouve que c'est une tradition qui vient du club de Santa Fe, en Colombie, qui en 2012 voit tourner autour de l'équipe une certaine Sandra Merino, que on peut qualifier de conseillère spirituelle.
Une sorcière.
Ouais, un peu ce genre-là. Et c'est elle qui a inculqué ce geste aux joueurs. Alors au début, elle a un peu galéré, elle a commencé à parler aux joueurs via Skype. Ouais, via Skype, ouais, c'est vraiment, ça a plus de limite. En fait, parce que le coach lui a interdit d'avoir accès aux entraînements.
D'accord.
D'où le Skype. Ensuite, elle s'est mise à prier pour les joueurs. Bon, jusqu'à là, rien de fou. Mais surtout, avant un match important, elle leur a lavé les pieds. Ouais.
Marie-Madeleine.
Ouais, elle leur a lavé les pieds.
Il y avait une explication particulière, là, encore?
Comme Jésus l'a fait pour ses apôtres. Elle leur a lavé les pieds. Alors, marrez-vous, mais figurez-vous que Santa Fe a gagné ce match-là 4-3.
Alors, si c'est comme Jésus a fait pour les apôtres, c'est peut-être parce qu'ils ont joué à 12. Je suis désolé.
Un point pour celui-là.
Mais non seulement ils ont gagné ce match-là, mais ensuite, ils ont été champions cette année-là. Ça faisait 37 ans qu'ils n'avaient pas été champions.
D'accord, parce qu'une femme leur a lavé les pieds.
Ouais, voilà.
Peut-être qu'on ressent mieux le ballon avec les pieds lavés.
Après, à chaque match, ils sont mis à marcher pieds nus.
D'accord.
Avant le match. Et donc, du coup, elle est restée 4 ans et elle aurait obtenu plein de trophées avec le club. Et depuis, elle s'occupe, elle gère une soixantaine de joueurs partout dans le monde. On parle de Falcao notamment, elle aurait une influence sur Falcao.
Non, attends, tu es en train de dire qu'elle a un cheptel de joueurs à qui elle lave les pieds régulièrement.
Non, à distance, c'est compliqué, mais il y a Skype, tu sais.
Ah oui,
Skype,
elle leur parle par Skype.
Elle leur parle, elle prie pour eux.
Lave les pieds par Skype, je comprends rien, votre truc.
Alors, pour ceux qui s'intéressent, pour les geeks de la Bible, cette citation, c'était dans le Deutéronome, chapitre 11, verset 24.
Bien sûr, merci.
Très bien. Merci.
Ça, vous le savez déjà, je pense. Hein.
Avec place son latin.
Après ça, je crois qu'on peut dire qu'on a bien fait le tour du week-end.
Ouais.
On va quand même vous recommander, comme toujours, un match à regarder. C'est le guide du week-end.
C'est Lector.
Ouais.
Football Recall.
Sylvain, un match, seul à regarder ce week-end.
Un petit match. Eh ben moi, je vais vous conseiller de la Bundesliga ce week-end. Hein, un petit Fribourg-Leipzig, derby des villes bombardées.
Miam, miam.
En France, ce serait l'équivalent d'un Le Havre-Dunkerque.
Si tu commences à dire à propos du championnat allemand, le derby des villes bombardées, t'as pas terminé, il y en a tous les week-ends.
Il y a des villes bombardées tous les week-ends. C'est pas fini. Incroyable.
C'est une vision. C'est vraiment. C'est, faut le dire. Hein, si c'est une vision que t'as eue, faut prévenir les gens. C'est ça, je suis très sérieux.
Alors pourquoi est-ce que je vous recommande ce match ? Alors déjà, la première chose, c'est que Leipzig est deuxième à seulement 13 points du Bayern. Alors autant vous dire qu'on ne sait absolument pas qui va être champion. La Bundesliga n'a jamais été aussi serrée.
Suspense.
Est-ce que ça va être le Bayern ? Est-ce que ça va être Munich ? On ne sait pas vraiment. Donc ça, c'est vraiment une bonne raison. La deuxième, c'est que bon, on est un peu chauvin. Il y a des Français à voir. Il y a Jean-Kévin Augustin. hein, hein, qui est un peu fantasque. Sûr. Et il y a surtout Dayo Upamecano, qui a quand même le meilleur nom du monde. Je l'ai jamais vu jouer. Et vraiment, une dernière bonne raison, c'est que si jamais les Allemands doivent revenir un jour, c'est toujours bien de savoir comment ils se comportent. Il faut les étudier. C'est peut-être un 0-0, mais il vous sera utile dans 5 ans.
Alors, je rebondis, parce que j'ai eu un peu peur quand Sylvain a dit Bundesliga, parce que moi aussi, c'est de la Bundesliga.
C'est pas vrai.
Et figure-toi que c'est le Bayern de Munich.
Ah!
Parce que je voudrais parler de cette petite équipe dont on entend peu parler, le Bayern. Bah oui. Non, mais le Bayern, vous remarquerez que depuis quelques semaines, on n'entend pas beaucoup parler. Mm-hmm. Après leur défaite 3-0 face au PSG au Parc, ouais. On les avait enterrés. Depuis, Carlo Ancelotti a été viré, il a été remplacé par Jupp Heynckes.
Par son sourcil. Au départ, c'était son sourcil qui devait prendre le poste. Hein. Leur sourcil a refusé.
Et Bilan d'Heynckes, 16 victoires 17 sur 17 matchs, 37 buts inscrits, 10 encaissés.
Pas mal.
Et le Bayern compte, comme Sylvain disait, 13 points d'avance sur le deuxième. Et puis surtout, il y a le retour d'un joueur qu'on aime tous, dont le nom vous dit peut-être quelque chose.
Ulysse Agnol.
Franck Ribéry.
Francky.
La machine Francky. Donc la machine Francky se pète le genou gauche en octobre. Son retour est annoncé en janvier, voire en février. Il revient finalement le 20 décembre pour un match face au Borussia.
Bam.
Et au match suivant, il marque. Donc il est plutôt en forme. En fait, à chaque blessure, t'as l'impression que Francky revient encore plus fort.
Hein. Pense à Ousmane Dembélé.
Ouais. Je pense qu'il pourrait lui donner des petits tips. Le match, c'est Bayern Munich Werder Bremen et c'est dimanche à 15h30 sur beIN Sport 6.
6.
Oui, et il y en a 8 ou 9, je crois, des beIN Sport.
C'est vraiment pour les fans.
Voilà, c'était ma petite reco.
Boris, avant de tousser.
Ouais, et ben moi, en toute objectivité, c'est Lyon PSG.
Donc les banderoles. Hein.
Ouais, bien sûr. Entre autres, pour cette raison-là, bien sûr, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut regarder Lyon PSG. Thomas, il y a un problème ?
Non, pas du tout,
on est d'accord. Vas-y. Je vais finir là tranquillement.
Ouais.
Il est hors de question de louper un des sommets du championnat, déjà d'une. Ouais. C'est hors de question parce qu'on est un peu chauvin.
Boris se bosse à la Ligue, il faut le savoir. Hein.
Accessoirement, c'est aussi les deux clubs qui ont le plus de titres depuis les années 2000, le titre des champions, donc on les aime bien. Mais surtout, il faudrait pas ne pas voir l'éventuel dernier match de Javier Pastore sous maillot du PSG, ça c'est une certitude.
Ah.
Et comme on sait que Pastore, bon, en ce moment, on sait pas trop comment ça va se passer, tout pendant que le mercato d'hiver est pas bouclé, eh ben, on regardera tous les matchs du PSG jusqu'à la fin du mois de janvier. En hommage à Javier.
Javier, est-ce qu'on le verra avec le maillot du PSG ou avec le survêtement du PSG?
On le verra avec le maillot, c'est sûr. Ouais.
Je comprends pas, il a dit qu'il aimait Paris, il doit pas partir.
Hein. Exactement, Sylvain.
Oui.
C'est la logique.
Alors, Thomas, un match ?
Ouais, comme on ne se parle pas avant l'émission.
Quel est ton match ?
Bah, Lyon-PSG, figure-toi.
Ah bah tiens, quel hasard.
Et pas pour Pastore, figure-toi, parce que je pense que Paris va commencer à rendre hommage à Ronaldinho qui vient de prendre sa retraite. Hein, la news est tombée. Donc les supporters vont sûrement sortir une banderole. Hein. Peut-être Sylvain aura une vision ce week-end, il va nous appeler.
Non, il n'y en a pas, sinon je l'aurais vu.
Merde. Ça m'arrange pas. Pour Tifo, il faudra sûrement attendre le prochain match au parc. Mais en attendant, le meilleur hommage à Ronaldinho, ça viendra sûrement du terrain. Hein, quand Unai Emery fera rentrer sa pépite brésilienne avec sa vitesse folle, ses dribbles ravageurs. Ouais, je parle de Lucas.
Non, Lucas.
Mais bien sûr, c'est un hommage. Tu fais rentrer Lucas, quoi.
Car il y a une offre de Naples pour Lucas.
Et justement, on va y arriver. Ce qui serait bien, c'est que Lucas marque pour ce match, son dernier match. Il marque du genou, comme ça. Parfait. Merci, rideau. Au revoir. Puisqu'évidemment, les journaux parlent de Naples. Notamment, mais de Liverpool,
oui.
D'offres de Tottenham et même de Manchester.
Non, mais
de Manchester United. Mais c'est fou.
Lucas est annoncé partout avant même l'ouverture du mercato.
Mais il reste et il s'accroche et on est content.
Je pense que pour savoir où il va, c'est très très simple. Tu prends l'axe du terrain sur son aile et tu vas tout droit et il y est en un quart d'heure en courant. Il s'arrête pas de toute façon.
Eh bien, l'Angleterre, part en Angleterre. On se rappelle que Lucas a quand même été adoubé par les plus grands comme Denilson dans SoFoot en 2014 qui disait, je cite, Lucas est peut-être plus taillé pour le foot européen que Neymar.
Donc Denilson, parmi les plus grands Denilson.
Ouais,
d'accord. Voilà. Ok, très bien.
Alors moi, franchement, Lucas, je suis pas contre son départ. Je suis même prêt à monter moi-même ses highlights sur YouTube avec de la musique techno derrière pour qu'il se casse, vraiment. Parce que Lucas Moura, un jour, est loin de Paris, si possible.
Waouh. Là.
Je pense qu'on a une chute.
Mic drop.
Je pense qu'on a une chute.
Si des étudiants en journalisme écoutent ce podcast, dans votre petit carnet à la rubrique chute, vous notez celle-ci. Celle vous servira.
J'ai tout pris à Pascal Pro.
Bravo.
Je dois le dire.
Football Recall.
Merci d'avoir écouté Football Recall. Grâce à ce podcast, grâce à nous, vous savez déjà ce qui va se passer sur le terrain ce week-end. Hein. Donc à vous la grâce mat pendant que les enfants pleurent dans leur chambre. Hein. C'est fou. On se retrouve donc la semaine prochaine, dès jeudi matin, sur Deezer et sur le site de SoFoot.
Oui, merci Sylvain d'être venu.
Ben, un plaisir.
Et puis merci Boris.
Mais de rien, c'est quel plaisir également.
Quelle voix il a. À jeudi prochain, n'oubliez pas, Football Recall, c'est le foot vu par le petit trou du Glory Hall.
Le podcast foot by SoFoot.